て。Jean-Marie Perrier, ce soir notre invité à l'occasion de son exposition photo Les Beatles qui va bientôt commencer au château d'Ardelot. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et avec ce monsieur qui a connu tous les chanteurs de la terre entière, eh bien nous avons choisi les Rolling Stones.
Thank you.
Alors Jean-Marie Perrier, je voudrais qu'on commence non pas par vos souvenirs sur les Rolling Stones, mais par vos grands-parents.
Oui.
Ce sont eux qui vous ont élevé.
C'est mon arrière-grand-mère qui est très intéressante, surtout celle-là, je ne l'ai pas connue. Elle s'appelait Réjeanne. C'était la plus grande actrice du début du siècle avec Sarah Bernhardt. Mais comme elle était plus jeune de 10 ans que Sarah Bernhardt, il y avait lutte intestine, disons. Mais c'est vrai que c'est merveilleux d'avoir une descendance aussi. Non, c'est pas une descendance d'ailleurs, on dit.
Une ascendance.
C'est moi la descendance. Mais ce qui me touchait beaucoup, c'est ma mère qui ressemblait beaucoup en fait à Réjeanne, parce que Réjeanne était très en avance pour l'époque. Hein. Elle était féministe avant la lettre.
Et votre mère aussi.
Ah, ma mère, oui. Elle était très en avance. C'était pas une femme libérée, elle était libre. Voilà. Mais à une époque où c'était rare quand même.
Donc les grands-parents.
Alors mon grand-père, Jacques Porel. Alors lui, c'est un personnage absolument merveilleux. Parce qu'il n'a d'abord jamais travaillé, parce qu'il trouvait ça très vulgaire. Ensuite, il était ce qu'on appelait un des derniers grands boulevardiers. Sa fonction était avec Alphonse Allais ou Tristan Bernard. C'était des gens qui étaient brillants à table, voilà. Porel était très très brillant ce déjeuner. Et puis ensuite, il descendait les grands boulevards. Et voilà, il n'a jamais rien fait d'autre que une seule chose dans sa vie, écrire un livre qui s'appelle « Fils de Réjeanne ». Bon, ce qui est assez finalement honnête, hein, parce que c'est tout ce qu'il était. Mais la vie de sa mère, on n'imagine pas la popularité de ces femmes qui, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, téléphone, rien. Elle arrivait à New York, c'était bourré partout. Le bateau à l'arrivée au Brésil, il y avait des foules qui les attendaient, c'était insensé. Non, c'est des beaux, très beaux souvenirs que je n'ai pas connus.
Alors, il y a eu aussi, très jeune dans votre enfance, la lutte de classe, si j'ose dire, entre le milieu social de votre père et le milieu social de votre mère.
Oui, parce que ma mère, elle était actrice, mais presque par habitude, ça n'intéressait pas vraiment.
Familiale.
Oui, elle faisait ça parce qu'il fallait bien faire quelque chose, mais ça n'a jamais été vraiment une passion pour elle. Elle a surtout fait du doublage après, d'ailleurs. Moi, ma mère, elle dansait, voilà. Elle chantait dans sa salle de bain et elle dansait le soir au Club Saint-Germain.
Mais elle vous a emmené dans les boîtes de nuit que vous avez connues très jeune, comme si c'était le seul lieu où un adolescent pouvait vivre.
Ah oui, non, mais ça, elle trouvait ça normal. D'ailleurs, au fond, je crois qu'elle attendait que je sois un adulte pour vraiment me parler. Les enfants, c'était pas vraiment son truc. Donc, si vous voulez, rue Saint-Benoît, qui était quand même le centre de Paris à l'époque, il y avait tout ce qui était intelligent, doué, fantaisiste.
Et les boîtes de jazz.
C'était rue Saint-Benoît. Et il y avait le Club Saint-Germain, qui était le centre du monde du jazz à l'époque. Parce que tous les Noirs américains venaient là, parce qu'au moins ils étaient respectés. Et ma mère dansait. Alors c'était formidable. J'avais 11-12 ans, j'arrivais à la porte, je disais, je viens voir maman, boum, et je pouvais rentrer direct. Hein. C'était absolument merveilleux. Et ça, c'est des souvenirs formidables que j'ai avec elle, mais j'en ai pas beaucoup, parce que bon, j'ai surtout été élevé par mon père.
Oui, mais votre mère, elle a tenu aussi des boîtes de nuit lesbiennes.
Oui, oui, absolument. Ah oui, oui.
À une période où c'était vraiment extrêmement osé.
Oui, mais ça participe de son envie d'être hors norme, parce que bon, elle n'était pas lesbienne, enfin, à ce que je sache. Mais ça la faisait rire. Elle s'entendait bien avec ces gens parce que bon, elles étaient elles aussi un peu hors système quand même. Et finalement, ma mère qui était née du système a passé sa vie à le faire voler en éclats.
Sa vie alors vous étiez mignon, vous l'êtes toujours d'ailleurs.
Non, mais je regrette.
Mais donc, vous deviez être le doudou de toutes ces dames.
C'était le rêve absolu. Parce qu'en plus de ça, bon, ma vie c'était la musique, je jouais du piano. Alors quand la nuit, il y avait des soirées après le théâtre, il y avait des dîners à la maison à Neuilly, là-bas. Et alors moi, je descendais la nuit, comme ça, et je jouais du piano devant tout le monde. Alors, oh, comme il est mignon! Mais ce que je regrette, c'est qu'on aurait dû me dire plus à l'époque que j'étais mignon. Parce que moi, je vois des photos, par exemple, vous voyez, dans les années 60, 70 et tout. C'est vrai que j'étais pas mal, mais je m'en rendais pas compte. Vous comprenez?
Mais sait-on se regarder, même quand on est photographe, comme
non,
vous?
Non, parce que d'abord, il faut bien le dire, que les gens, en général, n'aiment d'eux-mêmes que les photos sur lesquelles ils ne se ressemblent pas. C'est très curieux. Dès qu'ils se ressemblent, ils n'aiment pas la photo.
Vous vous regardez dans la glace aujourd'hui?
Bon, je me regarde pour voir si je suis encore debout et présentable, mais enfin, je ne peux pas dire que ce soit une occupation qui me fascine.
Vous continuez la photographie ?
De temps en temps, quand on me le demande, mais vous savez, la photographie n'a pas tenu tout... Enfin, on me connaît pour ça, mais ça ne représente que 20 ans dans ma vie. Hein. J'ai fait dans les années 60 et dans les années 90 avec ma sœur Anne-Marie, quand elle dirigeait elle, mais sans ça, j'ai fait plein d'autres choses.
Donc, vous aviez plusieurs vies.
Oui, à partir d'où on
vous
sait.
Avez fait du cinéma, oui. Vous avez été producteur, vous avez arpenté le monde entier.
Non, producteur, non.
Bah si, enfin, vous avez agi dans le monde du cinéma.
Oui, mais comme metteur en scène. Si j'avais été producteur, je serais en prison. Je suis tellement nul pour le business. Non, heureusement, je n'étais pas producteur. Comme on n'a qu'une seule vie, je trouve qu'il faut en vivre plusieurs. Comme moi, je ne crois absolument à rien. Je ne pense pas qu'il y ait un barbu qui pense à moi là-haut. Donc, je me dis, autant vivre des vies différentes. Et puis, c'est formidable parce que ça permet de rencontrer des gens. Au fond, le seul intérêt, la chance pour moi dans la vie, c'est de rencontrer des gens. Et j'ai rencontré des gens.
Oui, mais vous avez traversé des temps bénis. Vous n'avez pas rencontré n'importe qui. Je ne pense pas que ça soit simplement le hasard. C'est parce que vous étiez une tête chercheuse et que vous aviez une intuition très forte et beaucoup de sensibilité. Et je crois aussi, après avoir lu vos deux livres de mémoire, Jean-Marie Perrier, que votre enfance et votre adolescence ont été baignées d'une certaine mélancolie, d'une certaine rigueur et d'une certaine présence-absence de votre père. D'ailleurs, votre père, que nous admirons toutes et tous, nous allons l'écouter, nous allons entendre sa voix. Il va s'adresser aux auditeurs et il va raconter une anecdote. C'est une archive INA du 7 décembre 1948. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Ce matin, je vous avais souhaité bonjour. Il m'est choix ce soir de vous dire bonsoir. J'espère que ce bonjour vous a apporté une chance quelconque, que vous avez été heureux aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas été heureux, qu'ils essaient de se consoler. Ils vont maintenant jouir d'un repos bien gagné. Moi-même, je vais faire la même chose dans quelques instants. C'est la minute où l'homme se retrouve seul. Où il est heureux, enfin seul, je parle avec lui-même, mais où il peut vraiment vivre sa vie, se regarder un peu, voir ce qu'il est, ça n'est pas tellement désagréable. Et puis au fond, c'est un luxe qui ne coûte pas cher. Je vous quitterai en racontant évidemment encore une petite histoire. C'est une histoire qui pourrait être drôle et peut-être un peu plus sentimentale que celle que je vous ai racontée ce matin. Elle se passait à Marseille. Et c'est une nuit. Une nuit, je rentrais, j'avais tourné très tard, c'était des scènes de nuit, j'avais tourné jusqu'à 4 heures du matin. Et je rentre à l'hôtel, je sonne et je réveille un portier marseillais. Vous savez, le portier qui avait la chemise entrouverte, qui avait le pantalon qui bien au-dessous de la ceinture, les bretelles qui pendaient dans le dos, et il avait sommeil. Il avait le visage bouffi de sommeil. Et je dois dire qu'en le voyant comme ça, j'ai eu un peu de peine et je me sentais coupable de l'avoir réveillé. J'éprouve le besoin de m'excuser, je lui dis « Écoutez, je suis navré, je vous ai réveillé ». Et il me répond simplement, c'est pas tant le sommeil, c'est le rêve. Je crois que sur cette jolie histoire, je peux moi aussi vous souhaiter de bons rêves et vous dire à un autre jour, bonne nuit maintenant.
Il s'appelait François, votre père, il est dans toutes nos mémoires. Il n'était pas forcément un mauvais père, mais d'après ce qu'on comprend dans vos textes, Jean-Marie Perrier, c'était un homme... très rigoureux, très angoissé, très désireux d'être le plus proche possible de l'exactitude que requiert ce métier très difficile. Et en fait, il était très absent.
Oui, forcément, parce que c'était un bourreau de travail. Je veux dire, il faisait des radios le matin, ensuite il tournait des films la journée, il était au théâtre le soir. Mais en même temps, c'est une enfance extraordinaire, parce que je l'ai vécu dans les coulisses de sa vie, c'est-à-dire les coulisses des théâtres. Quand il était à la Michaudière, bon voilà, j'allais le voir, l'entendre. Je détestais un peu les gens dans la salle parce qu'ils me le prenaient.
Bon voilà. Oui, parce que tout petit, vous étiez en coulisses et effectivement, le père, il était en pleine lumière, mais il n'était pas pour vous. Il fallait attendre très tard le moment où vous étiez endormi.
Oui, mais il y avait toujours un moment où je me mettais près de la scène derrière le rideau. Il savait que j'étais là. Il venait près de moi. Il m'embrassait vite fait et il repartait sur scène-là. Alors j'étais le roi du monde, là.
Enfant de trop ou enfant très aimé ?
Ah non, non, alors là, jamais j'ai été aimé par personne comme par mon père. Parce qu'il m'a choisi, mon père. Hein. Donc, c'est pas rien.
Savait-il, alors faut que vous expliquiez un peu plus. Oui. Je sais à quoi vous faites allusion quand vous dites « il m'a choisi ».
Oui, il m'a adopté en réalité.
Est-ce qu'il savait ?
Oui, bien sûr, quand je suis né, il faut bien le dire, il était quand même très blanc. Et j'étais un peu une allumette brûlée quand même quand je suis né. Donc, il l'a bien vu. Mais il n'a rien dit, il a fait comme s'il ne voyait pas, et de toute façon, il a décidé que j'étais son préféré. Il l'a toujours dit.
Mais votre mère trompait beaucoup votre père ?
Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En réalité, elle était avec mon géniteur avant...
Quel drôle de mot vous employez ?
Oui, je ne prononce plus son nom, parce qu'il s'est très mal conduit par la suite avec mes enfants, donc il n'existe plus pour moi. Mais... c'était une belle histoire, en fait. L'histoire du livre, elle est belle, parce que j'ai pas raconté la suite, mais en fait, si vous voulez, ils étaient ensemble, mon géniteur et ma mère, en 38-39. Bon. Et puis lui, il part pour l'armée, et puis tout à coup, elle rencontre mon père. Bon, elle tombe amoureuse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Jusqu'à là, tout est parfait. Je ne suis pas encore né, mais j'existe quand même déjà, elle est enceinte, mais elle ne le sait pas. Et elle m'a dit qu'en plus de ça, tout avait l'air normal, hein, mais alors que j'étais là. Et puis un jour, je suis né. Et voilà, bon, c'est au fond, c'est pour elle que ça a été très, très difficile.
François Périer est oui. Votre double père, en quelque sorte.
Oui, parce que, vous dites, il m'a choisi. C'est pour ça que moi, quand j'ai appris cette histoire-là, je l'ai choisi à mon tour.
C'est-à-dire Ce qui est incroyable, c'est qu'on ne vous a rien dit pendant très, très longtemps.
Oui, mais il faut se replacer dans l'époque.
Vous savez que ça existait beaucoup dans les familles bourgeoises comme la vôtre.
Bien sûr. Mais surtout que mon père...
Classe.
Ouais, très très grande classe. On ne s'étale pas, on ne se plaint pas. Très drôle, surtout.
On est fier de son fils.
Oui, il nous a appris à rire de nous-mêmes d'abord. Donc c'est énorme. Et puis, au fond, il ne m'a peut-être pas élevé comme on faut. Genre, ne fais pas ci, fais pas ça, d'ailleurs, auquel je ne crois pas. En fait, il m'a donné des souvenirs. Mais ça n'a pas de prix. Il m'a donné des souvenirs et l'envie de lui ressembler.
Et une exigence.
C'est énorme d'avoir envie de ressembler à son père. C'est pas si courant, hein. Donc, ça suffit largement.
Votre histoire familiale est teintée d'une grande tristesse et même de tragédie, Jean-Marie Périer.
Mais ce qui est fou, c'est que je n'en suis pas sorti. Je vais avoir 80 ans dans quelques mois.
Vous portez beau.
C'est le résultat d'années d'études devant le miroir. Mais je ne suis pas sorti de cette histoire. C'est ça qui est incroyable.
Non, bon, la drogue, c'est de la merde. C'est vous qui avez écrit ça.
Oui, absolument.
On comprend pourquoi.
Ben oui, j'ai quand même deux frères qui sont morts de ça. Bon, donc si vous voulez, c'est pour ça que moi qui étais toujours en vadrouille avec les Beatles, les Rolling Stones, Johnny Hallyday, tout ça, bon, moi je ne touchais pas à tout ça, parce qu'on ne peut pas faire ça à une famille. Bon, à part, j'ai quand même fumé quelques conneries du ganja de Peshawar.
Hein, ah, quand même.
Oui, mais attendez.
Vous avez cédé au petit matin.
Il fallait quand même être un peu bien élevé. Mais la petite boîte magique dans les soirées, je la refusais. C'était pas facile au départ, avec les groupes là, de musiciens. Et puis finalement, après... ils se sont dit, tiens, lui, il essaie pas de nous ressembler, il est normal. Donc ça crée une certaine confiance. Donc, en tout cas, bon, j'avais fait cette campagne dans les années 80, parce qu'on n'avait jamais parlé du mot drogue à la télévision. Le mot drogue n'avait jamais été écrit sur un écran de télévision. Et comme c'était Jacques Séguéla qui m'avait confié cette campagne, parce que c'était une campagne gratuite, bon, donc lui, il avait une affaire à tourner, il me dit, tiens, écoute, fais-le. Il n'était pas bête, il savait pourquoi, il me le donnait. Bon, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là ? Il m'a dit une chose très intelligente. Il m'a dit, écoute, on ne va pas résoudre le problème de la drogue avec un clip. Tout ce qu'il faut, c'est que tu te débrouilles pour provoquer la conversation entre les enfants et les parents. Donc je me suis dit, je vais prendre un mot absolument grotesque, c'est-à-dire la drogue, c'est de la merde. C'est une phrase idiote, puisque si c'était de la merde, il n'y aurait pas autant de gens qui en veulent. Mais je savais très bien qu'un môme qui, pour la première fois, voyait à la télévision le mot drogue et le mot merde, il s'adressait à son père en disant « ça veut dire quoi ça ?» Et ça a marché. Le professeur Olivenstein me l'a confirmé 3 ans plus tard. Mais à l'époque, est-ce que je m'étais fait engueuler par l'intelligentsia du tout Paris qui chante et qui ricane, hein, je peux vous dire. Oula.
On a l'impression, Jean-Marie Périer, que certes vous avez hérité d'une famille exceptionnelle par sa liberté des mœurs, par son ouverture d'esprit, par sa possibilité de vous faire découvrir extrêmement jeune le monde du théâtre, le monde du cinéma, le monde de la musique. C'est cependant uniquement par votre propre entre-gens ou votre gentillesse naturelle ou votre facilité à vous introduire dans tous les milieux mine de rien que vous avez réussi à approcher et à trouver et à découvrir des jeunes gens qui seront ensuite des icônes du monde entier.
Ah non, attendez, j'ai deux chances dans ma vie. Mon père, François Périer, et Daniel Filipacchi. Ce qui était très extraordinaire, c'est que ces deux hommes, en fait, Daniel m'a donné une deuxième éducation, si vous voulez. Mais en fait, ce qui est merveilleux, c'est que mon père, c'était un homme qui venait de la toute petite bourgeoisie et qui était au fond un classique. Alors que Daniel Philippakis était comme moi un enfant gâté, et c'était la modernité, lui. Il avait été en Amérique avant tout le monde, il apportait le jazz. Vous vous rendez compte, j'avais 16 ans et il me fait une confiance totale dans la seconde. Il m'adopte, voilà, encore quelqu'un qui m'adopte. Il me donne les clés, il me passe un appareil et puis il m'envoie faire des photos pour son journal Jazz Magazine. Donc si vous voulez, entre ces deux hommes-là, voilà, c'est mes deux béquilles, quoi. C'est merveilleux. Ça m'a à la fois sauvé de ce marasme de ce problème d'enfance qui était quand même assez compliqué à régler à l'époque à l'intérieur. Moi, on pouvait en parler à personne de cette histoire. Puis ma mère était désolée, elle ne savait pas comment faire, elle se sentait coupable alors qu'elle l'était pas.
Je vous propose d'écouter la voix d'Edgar Morin. Edgar Morin qui va parler des yéyés, c'était une archive. C'est lui qui a inventé le mot.
Mais je sais, alors qu'en plus de ça, en plus...
grand sociologue comme le professeur Edgar Morin.
Oui, mais en plus, c'est le seul à l'époque qui avait fait un article intelligent sur ce concert de la Place de la Nation. C'est
où
le
vous
seul.
Étiez, évidemment.
Oui, et c'est le seul qui a dit, vous allez voir ça, ce qui se passe là, ça c'est l'avenir. Lui, il avait compris.
Ouais, le mot, bien sûr, je l'ai inventé. Non, vous savez, il y a eu un événement en 1963, il y a très longtemps, qu'on appelait la Nuit de la Nation, où Europe numéro 1, qui faisait une émission « Salut les copains », où il y avait les premiers orchestres avec Johnny Hallyday, etc. Donc, se manifestaient, et ils ont organisé une grande soirée à Place de la Nation. Et la fête, au lieu d'être une fête uniquement de joie, est devenue une fête un peu violente. Une partie des jeunes ont arraché les grilles des arbres, renversé les voitures, etc. Et ce phénomène incompréhensible, le rédacteur en chef du Monde m'a demandé si je pouvais essayer de comprendre. Et c'est alors que, rassemblant mes connaissances, me référant au surgissement de héros de l'adolescence, peu avant dans les films de James Dean et Marlon Brando, je pensais qu'il y avait une nouvelle classe adolescente ou jeune qui surgissait avec sa panoplie, ses uniformes, son langage, sa musique, ses rites, etc. Et à l'époque, évidemment, pour les sociologues, c'était complètement incongru parce que pour eux, la jeunesse n'existait pas comme catégorie sociologique. Alors donc, j'ai appelé yéyé parce que souvent revenait l'expression « oh yeah ». J'ai pu suivre ce phénomène juvénile jusqu'en mai 68, tout ça.
Alors, on vient d'entendre Edgar Morin, mais vous étiez jeune, vous étiez yéyé, Jean-Marie
Perrier.
Oui,
c'est extraordinaire parce qu'il a tout compris. Avant tout le monde, parce qu'à l'époque, tous les jeunes.
En fait,
il y
avait les vieux qui avaient les rênes de la société.
Absolument.
Et puis, il y avait les jeunes qui devaient devenir des adultes très vite comme des vieux. Oui, mais les jeunes n'existaient pas vraiment, n'avaient pas leur place.
Non, mais dans les années 50, on passe de la culotte courte au mariage direct. Ça n'existe pas. Tout à coup, là, c'est la naissance de l'adolescence. Et lui, il le voit. Et alors, bon, moi, j'aimais pas ce mot yéyé. Mais c'est pas à cause de lui. C'est parce qu'après, les gens qui n'aimaient pas tous ces jeunes chanteurs, parce qu'à l'époque, c'est fou ce qu'on pouvait dénigrer, et Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, ça c'était épouvantable. Alors que c'était les mômes qui voulaient chanter et danser. C'est pas compliqué. Et les adultes qui n'aimaient pas appelaient ça les yéyés. C'était devenu négatif. C'est pour ça que ce mot m'a toujours fait frémir. Mais par contre, lui, Edgar Morin, il est formidable. Il est le seul à avoir compris.
Alors, ça n'explique pas pourquoi ni comment vous, Jean-Marie Perrier, qui était un jeune comme les autres, vous arrivez à suivre, à accompagner, à trouver celles et ceux qui vont devenir, sans faire de mauvais jeu de mots, nos idoles. Parce que vous vivez comme eux, en même temps, vous êtes comme eux, mais vous avez toujours votre appareil. Est-ce que votre appareil photographique était une sorte, finalement, de détachement, d'armure pour mieux regarder celles et ceux qui vous ressemblaient?
D'abord, je faisais pas de photos de la réalité. Je faisais que des photos mises en scène. La réalité ne m'intéresse pas. Il y a des gens très, très bien pour ça. Moi, je faisais du spectacle. D'abord, c'était grâce à Daniel Philippakis qui me dit « Tiens, on va faire ce journal. Est-ce que tu veux le faire avec nous ?» Bon, ça tire à 100 000 le premier numéro. On est à 1 million 6 mois plus tard. C'est unique dans les annales de la presse. Bon, le rapport que j'avais avec ces mômes-là, d'abord, c'était des mômes qui étaient partis de rien. Et eux, ils faisaient de la musique, pas moi. Hein ? Moi qui avais été musicien et qui avais arrêté pour ressembler à mon père, François Perrier, je faisais pas de musique. Bon, eux, ils en faisaient. Et ensuite de ça, je savais beaucoup plus qu'eux ce qui les attendait. Parce que moi, les coulisses du succès, je les avais vues avec mes parents, avec tous les gens que je voyais à la maison, les peurs, le trac, je le voyais, je le connaissais parce que je savais ce qui allait leur arriver. Donc c'est peut-être ça qui créait un rapport de confiance, ils le sentaient bien. Et puis j'essayais pas de leur ressembler, voilà. Hein. Quand je photographiais les Rolling Stones, j'étais en cravate, moi. Parce que faut pas essayer de ressembler à qui que ce soit, de toute façon.
Et puis, vous n'avez jamais non plus revêtu de couleurs criardes de ce monde que tout le monde aurait aimé connaître, celui que vous avez connu. Quand vous rassemblez vos souvenirs et quand vous restituez ce passé, c'est avec des mots assez crus et même assez tragiques. Je vais prendre un seul exemple. Dans un de vos livres, Jean-Marie Perrier, vous racontez comment vous allez dormir une nuit, mais vous avez peut-être dormi plusieurs nuits, avec les Rolling Stones, au moment où ils étaient en tournée. Vous les accompagnez, et puis vous arrivez dans une sorte de château où vous êtes avec eux. Ils sont éparpillés dans ce château. Et là, vers 3-4 heures du matin, vous traversez une pièce et vous voyez une jeune femme enceinte jusqu'aux dents, entre guillemets, très enceinte, et vous la surprenez en train de furieusement se taper le ventre parce qu'elle voulait pas de l'enfant qu'elle avait attendu de l'un d'entre eux.
En réalité, c'est pas qu'elle voulait pas de l'enfant, c'est qu'elle voulait pouvoir recommencer très vite à faire la fête. Elle disait « Get out, get out, get out, sors, vas-y, ben ça va ». Bon, elle en avait marre, mais c'est une époque qui est tellement différente. Ces gens-là, les Rolling Stones, ben, surtout eux, c'est des gens qui ont inventé une vie, une façon de vivre nouvelle. Bon, je vous parle pas des postes de télé qui passent par la fenêtre ou de ou
non,
ou
mais
des
quand vous décrivez
d'hôtel,
les fans mais... de Mick Jagger et des autres des Rolling Stones, là ça se passe aux États-Unis, si mes souvenirs sont exacts.
Ah oui, mais c'était fou.
Et où
il y a
mais c'était dingue.
Mais j'ai fait 5
tournées. 300 nanas jour et nuit qui attendaient, ils pouvaient pas mettre un pas dehors.
Non, mais qui dormaient par terre. Je veux dire, je me souviens un jour avec Mick, on est parti le matin très tôt pour.
Ah, vous dites avec Mick.
Oui,
bon.
Mais attendez, je les ai vus pendant 12 ans de ma vie parce que il a été très sympathique, lui, avec moi. Il m'a aidé à rentrer dans l'histoire, parce que c'est pas évident. J'ai fait quand même 5 tournées avec eux, et j'allais chez lui, il venait chez moi. Donc, si vous voulez, c'était très...
C'était des héros, c'était des dieux grecs érotiques.
Oui, mais il n'y avait pas que. Hein. Alors là, je veux dire, les Beatles, c'était pareil. Johnny Hallyday, c'était pareil. Sauf que eux, c'était ce que j'ai vu de plus spectaculaire, de plus violent. Mais je me souviens qu'un jour, on voulait partir très tôt, voir le lever du soleil avec une tequila dans la voiture, en haut de Mulholland Drive. Eh ben, on est parti. Il y avait un parterre de filles. On a été obligé de les enjamber pour qu'elles se réveillent pas. Et on a pris la voiture et on est allé regarder notre lever de soleil. C'était très sympathique comme moment.
Ils sont pas devenus fous, vous non plus?
Non. Surtout pas Mick. Lui, il était pas devenu fou. Non. En fait, il y avait Brian Jones qui était un personnage extraordinaire et il en est mort parce que lui, c'était vrai. C'était le vrai, quoi, si vous voulez. Lui, c'était le plus en danger. Mais c'est vraiment des types extraordinaires. C'est une chance d'avoir pu voir ces gens-là de près et d'avoir avec eux un port de confiance. Parce que c'est pas simple de rentrer dans les services. Quand vous n'êtes pas dans un groupe, vous êtes
mais
dehors.
Vous croyez à l'amitié et à la fidélité dans l'amitié.
Ah oui, non, mais de toute façon, c'est ce que je préfère dans la vie, c'est l'amitié. Pour moi, il n'y a pas de différence entre aimer une femme et aimer un homme. C'est l'amitié qui compte. Pour moi, c'est ça. Et en plus, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les gens que j'ai aimés, il y a des femmes que j'ai aimées, des hommes, sauf que les hommes que j'ai aimés, j'avais pas envie d'avoir d'aventure sexuelle avec eux, parce que c'était pas mon truc. Hein. Si ça avait été le cas, je l'aurais fait. Je tiens quand même de ma mère. Donc, c'est-à-dire que j'aurais été libre totalement. Mais ça ne s'est pas trouvé. Les sentiments sont les mêmes pour moi. Quand j'étais fou de Dutronc, que je voulais absolument faire tourner au cinéma, ben quand j'étais fou de Dutronc, il y avait le même manque. Pourquoi il m'appelle pas? Tiens, alors pourquoi je le vois pas? Vraiment, c'est exactement comme pour une femme, sauf qu'il n'y a pas le sexe. Et finalement, c'est mieux. Parce qu'en fait, c'est le sexe qui approche les gens et c'est le sexe qui les sépare. Donc finalement, ce truc est extrêmement surévalué. Finalement, il vaut mieux l'amitié, l'amour, le sexe. Bon, on peut faire sans.
Hein, bah c'est vous qui le dites, mais ah, vous étiez fou de Dutronc parce que vous étiez fou amoureux de Françoise, excusez-moi.
Oui, mais justement, j'ai toujours aimé, je me suis toujours attaché aux hommes pour lesquels j'étais quitté, toujours.
Bah écoutez, vous êtes un mec sympa quand même.
Mais hein. Non, mais écoutez, à partir du moment où on aime une femme, comment est-ce que je peux ne pas aimer celui qu'elle aime? Ça, j'ai jamais compris.
Ben, généralement, c'est dans l'autre sens, hein.
Ben oui, mais c'est idiot, c'est une perte de temps. En plus de ça, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Non, je me suis vraiment attaché. Écoutez, j'ai eu 5 femmes dans ma vie que j'ai aimées d'amour pour toujours. Je me suis toujours attaché.
C'est pour ça que vous vivez seul, alors?
Je ne vis pas seul, j'ai ma chienne qui est qui m'accompagne.
Excusez-moi, mais les femmes et les chiens, c'est pas, et même les chiennes, c'est pas tout à fait la même chose.
Non, mais j'ai vu le film, si vous voulez, je connais la fin du film avec les femmes, je connais la fin, je sais que c'est le jardinier qui a tué, donc maintenant je suis avec ma chienne.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Jean-Marie Perrier. Figurez-vous que c'est Françoise Hardy.
Bravo.
Je restais seule dans ma chambre.
Je me voyais partie dans un avenir de nonne, avec tout ce que cette grand-mère m'avait dit. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ça a presque été ça, mais bon. Et donc, quand j'ai découvert sur une radio toutes ces chansons américaines, anglaises, chantées par Elvis Presley ou Cliff Richard ou même Paul Anka, qui était célèbre en France, et il y avait cette chanson de Paul Anka qui était très connue, qui est très bien d'ailleurs, formidable, une guitare formidable, qui s'appelait Lonely Boy. Il disait « I'm just a lonely boy, lonely and blue, I'm all alone with nothing to do ». Et donc, moi, il y avait d'autres chansons aussi dans la famille autrichienne où j'allais en vacances. J'entendais des chansons allemandes de jeunes chanteurs et qui parlaient aussi de solitude, de choses comme ça. Donc, moi, je me projetais, je m'identifiais tout à fait. Et quand j'ai eu cette guitare dont j'ai jamais su jouer, mais enfin, j'arrivais à faire 3-4 accords, donc j'ai fait la chanson que j'entendais à ma façon, qui était beaucoup moins bien d'ailleurs.
Alors ça vous fait sourire, c'était à L'Heure Bleue, dans L'Heure Bleue, Françoise Hardy qui confiait ses souvenirs. Et vous, Jean-Marie Perrier, dans un de vos livres, vous décrivez la première fois que vous allez rencontrer Françoise. C'était dans la cuisine de sa mère. Vous racontez que sa mère était en train de faire du tricot et elle essaye de chantonner quelque chose.
Non, mais c'est-à-dire que surtout, c'était rue d'Aumale à Paris, mais sa mère était une comptable. François, c'était une prolo, hein. Donc, si vous voulez, Quand j'arrive dans cet appartement et que je vois cette môme qui était d'une beauté mais fracassante et qui ne le savait
pas. Qui l'est toujours, hein.
Absolument, non mais elle est sublime. Mais elle ne le savait pas. Ça, il n'y a pas plus séduisant au monde, hein, pour un photographe et pour un homme, alors je vous raconte pas. Et puis, il y avait cette espèce de candeur, en fait, d'ailleurs, cachait bien d'autres choses par la suite. Mais ce qui m'a fasciné chez cette môme, c'est que j'ai eu la chance donc de la côtoyer pendant 5 ans. Elle écrivait tous les jours. Toute sa vie, elle a écrit tous les jours. Donc, c'est pas une plaisanterie, je veux dire, quand elle... Et en plus, elle a osé enfin écrire un livre très tard. Mais elle aurait pu écrire bien plus tôt. Je trouve ça tellement beau, ça.
Alors, vous êtes un homme un peu chic.
Ah bon?
Vous êtes un homme qui ne dédaignait pas le luxe, Jean-Marie Perrier.
J'espère bien.
On évoquait le souvenir d'Edgar Morin, tout à l'heure, qui a inventé les yéyés. Il a écrit un livre magnifique sur 68, juste après 68, parce qu'il a compris qu'il s'était passé quelque chose de l'ordre d'un basculement des mœurs, de la civilisation, d'envisager non seulement le rapport à l'âge, au sexe, à l'autre avec un grand A. Et vous, que faisiez-vous en mai 68?
Alors moi, en mai 68, évidemment, j'étais complètement de l'autre côté parce que j'avais 28 ans et je travaillais dans un journal qui était exactement le contraire de ce dont parlaient les jeunes étudiants de mai 68. Mais j'ai toujours trouvé ça très surévalué aussi, mai 68 d'ailleurs. Parce que le départ est formidable. Après, c'est récupéré par les syndicats et les politiques et ça devient la même soupe que d'habitude. Parce que ça a été très surévalué parce que c'est la première révolution, entre guillemets, sans mort, parce qu'on a quand même de la chance en France, médiatique. Car toutes les quarts d'heure, Europe numéro 1 à l'époque, diffusait « La France est à feu et à sang », alors que ça concernait que 4 rues. Je le sais, j'étais là, moi j'étais chez Castel, alors j'allais voir.
Voilà, vous étiez en boîte de nuit, vous.
Oui, bien sûr, j'étais en boîte de nuit.
Au lieu d'être sur les barricades.
Oui, mais j'aurais pas pu, d'ailleurs j'ai essayé de voir Cohn Bendit, parce que la seule chose qui m'intéressait, moi, toute cette histoire, c'est Cohn Bendit. Je le trouvais formidable, et je le trouve toujours formidable d'ailleurs. Et j'ai été le voir, et puis il est pas venu dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne. J'étais très impressionné. Moi, j'avais jamais mis les pieds. C'était bourré de gens. Il n'est pas venu. Et il y a 2 ouvriers qui étaient devant moi. Il y en a un qui s'est tourné vers l'autre, qui lui a dit, c'est très gentil tout ça, mais ça me donnera pas mon pain demain. Alors là, j'ai eu honte, parce que j'ai vu que j'étais en visiteur, quoi. Là, j'avais une Ferrari garée à 500 mètres, hein. Donc, je suis parti, et je suis allé retrouver Brigitte Bardot en Italie. Parce que c'était mon amie et elle m'a fait la cuisine pendant 8 jours. C'était un enchantement. C'est le plus beau mai 68 qu'on pouvait avoir.
Votre vie n'a pas été une succession de roses et de lits de roses, Jean-Marie Perrier. Je crois que votre détermination, votre obstination, votre talent, vous le devez aussi à votre courage. Et notamment quand vous avez été appelé en Algérie,
oui, et que courage.
Parce que vous avez quand même été, à cause de votre révolte devant des agissements de l'armée française en Algérie, qui avait laissé faire certains membres de l'OAS, vous avez quand même été mis dans une sorte de camp.
Oui, c'était très compliqué. Parce que d'abord, cette ville était tellement magnifique, Oran. Ces gens étaient tellement sympathiques. En plus de ça, De Gaulle, qui était un homme extraordinaire, qui avait certainement un sens de l'histoire que je n'ai pas, mais enfin, je vous ai compris, il a quand même baisé tout le monde, hein, parce qu'il a menti aux deux, là. Et aux Arabes, et aux Français d'Algérie. Et c'est épouvantable, ce qui s'est passé. Ce que j'ai vu en Algérie m'a fait me méfier et jamais vous me verrez dans un parti politique ou dans une réunion quelconque où il y a du monde. La foule, je sais ce que c'est, je l'ai vu à l'œuvre. J'ai vu des gens gentils, des dames à qui j'achetais des fleurs ou des oranges et qui tabassaient des gens à coups de pierre et à coups de barre de fer jusqu'à la mort. Donc quand vous voyez ça, à 21 ans, ça vous marque quand même bien. Et il y a plein de choses dont je me méfie. D'abord et avant tout, la foule. Et c'est vrai que c'était téléguidé. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais les départs des manifestations, c'était fait par des types qui venaient de Paris. Hein. C'était très simple. Il suffisait de dire... Ils se mettaient en bas d'une avenue. Ils prenaient 10 gosses. Ils disaient, tu vas dans chaque boutique. Tu dis, si tu fermes pas, on te plastique. Bon, alors, les mômes, ils y allaient. Les types, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ferment. Donc toute la rue se retrouve dehors, ça y est, ça fait une manif. Après ça, il suffisait de dire, allez hop, on va à la chasse aux ratons, et en avant, ça commençait. Et j'ai vu la même chose à l'envers, j'ai vu des Français d'Algérie brûler dans des voitures. Je trouve cette injustice m'a énormément choqué, parce que tous ces Français d'Algérie, on les a quand même très très mal. On les a très mal accueillis quand même, quand ils sont rentrés, on les a Je trouve ça épouvantable, épouvantable. Vous parlez d'émigrés, voilà, c'est des gens qui étaient se trouvés dans une situation d'émigrés alors qu'ils étaient français.
Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la nostalgie. Aujourd'hui, vous apprêtez à faire une exposition dans un lieu prestigieux, le château d'Ardelot, à propos de ces Beatles que vous avez connus dès le début.
Dès le départ, oui.
Et que vous avez... Alors, est-ce que vous avez fait naître ou découvert des vocations, ou est-ce que pour vous, c'est plutôt un rôle d'accompagnateur?
Non, quand vous
commencez à photographier les Beatles, ils sont très peu connus encore.
Oui, bien sûr, les Rolling Stones, ils n'avaient même pas encore enregistré.
Donc le fait de les magnifier, vous avez dit tout à l'heure art photographique se déployait dans un art du cadrage. D'ailleurs, vous êtes quelqu'un qui vous intéressait beaucoup au visage.
Oui.
Et beaucoup au cadrage.
Mon métier, c'est de mettre les gens en valeur.
Et les mettre en lumière.
Oui, en valeur même.
Oui, mais mettre en valeur ou mettre en lumière, ça veut dire allumer le désir de celles et de ceux qui ne les connaissent pas encore.
Oui.
Donc, à votre avis, quel a été votre rôle dans tous ces gens aujourd'hui ultra connus et qui sont encore une fois nos icônes ou nos idoles? Est-ce que vous pensez que vous avez eu un rôle d'initiateur ou d'allumeur de désir?
D'allumeur de désir, peut-être, oui, mais enfin, je suis pas le seul. Et puis, en plus, vous savez, ces gens-là, c'est moi qui leur dois beaucoup. Parce qu'en réalité, je suis de la poussière d'étoiles. Hein. Moi, j'ai vécu leur succès, et mon succès, c'est le leur, d'abord. Tous ces gens-là, si vous voulez, eux, ils y seraient arrivés sans moi. Moi, sans eux, pas pareil. Donc, si vous voulez, ça, je ne l'oublie pas. Mais ce qui était formidable, cette époque-là était magnifique parce qu'ils étaient tous jeunes et beaux, en plus. C'était pas sérieux, il y avait aucune peur de rien, ils me faisaient une confiance totale. Mais vous savez, ils sentent vite les gens quand ils voient que vous allez les mettre en valeur. Ils le sentent très vite, hein.
Moi, je déteste. Ça passe par le respect.
Oui, ils le sentent. Et puis ils le voyaient après, parce que dans les photos, ils voyaient bien que je faisais tout pour les mettre en valeur. C'est merveilleux d'avoir la confiance de tous ces jeunes gens qui démarrent. Au fond, la chance, c'est d'avoir été là au moment où il faut, avec qui il faut et quand il faut. Voilà, c'est ça ma chance.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vis dans l'Aveyron, dans mon village de Villeneuve. C'est un enchantement absolu parce que c'est un pays qui c'est des paysages, c'est une atmosphère qui ressemble à la France d'avant dans la campagne de mon enfance. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont protégés comme ça. Donc je trouve ça formidable de pouvoir, sur le tard de sa vie, ressentir des moments, vous savez, où quand vous êtes, il fait beau, il est 4 heures de l'après-midi, je m'allonge là sur une chaise longue, il se passe rien. C'est extraordinaire parce que tout à coup, là, vous vous sentez vraiment vivre parce que vous vivez le moment présent. Ça n'a pas de prix parce que à Paris, bon, à peine on se réveille, boum, il y a le journal télévisé du soir dans la tronche. Hein. Donc là, vraiment, je le sens, la vie.
Dans cette émission, Jean-Marie Perrier, nous demandons à quelqu'un qui connaît l'invité de s'exprimer à son égard et à son propos. Nous avons demandé à Christian Cojol de nous dire ce qu'il pensait de vous. Écoutez.
Si on regarde, c'est quelqu'un qui a initié un type de portrait qui n'existait absolument pas à son époque, qui sont des portraits mis en scène. Il y a deux choses, je pense, qui le caractérisent. C'est le fait d'être un metteur en scène et le fait d'être un coloriste, un vrai coloriste. On peut ajouter, évidemment, alors ça, je trouve ça assez amusant, il y a une incroyable quantité avec ces modèles. Finalement, on fait preuve à la fois d'une très grande légèreté et d'élaboration très savante. Enfin, de ce point de vue-là, si on regarde la production de portraits aujourd'hui, il y a énormément de photographes qui fonctionnent comme Jean-Marie Perrier le faisait à l'époque. Moi, j'aimerais savoir s'il y a des gens du showbiz qu'il n'a pas photographié, des gens du showbiz, des chanteurs, entre autres d'aujourd'hui, qu'il aurait envie de photographier et comment il aimerait les mettre en scène.
Non, parce que je faisais des photographies pour un journal précis avec des limites. C'est ça que j'aimais, moi. Et puis, c'était une commande, en réalité. Jamais j'ai dit, ah, tiens, j'aimerais photographier un tel. Aujourd'hui, si, moi, ça m'amuserait de photographier Bacon Bandit, par exemple, et Virginie Efira, dont le sourire m'éblouit. Voilà.
Ben c'est déjà pas mal, mais moi je dirais qu'il y a beaucoup d'enfance dans votre art photographique qui va d'ailleurs se déployer au château d'Ardelot pendant tout l'été, à l'occasion donc d'une courte séquence de votre œuvre photographique, Jean-Marie Perrier, celle qui a trait aux Beatles. Et je vais vous mettre sous les yeux une des photographies qu'on pourra voir, qui est une véritable œuvre d'art que vous avez composée en 1964. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes aussi metteur en scène. On a l'impression qu'ils ont entre 15 et 16 ans, ces Beatles. Vous les prenez comme des gamins en train d'ouvrir une porte après qu'ils aient mis le doigt dans les pots de confiture et s'être fait admonester par leur grand-mère. Pouvez-vous nous expliquer comment se compose une photographie pour vous?
Ça, c'était la porte, en fait, qui était la porte de l'immeuble de leur manager, Brian Epstein. Elle était rouge. Attendez, déjà, la moitié du boulot est fait. Quand vous avez la chance d'avoir une porte rouge, il faut en faire quelque chose quand même. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, je peux effectivement leur dire de se mettre l'un au-dessus de l'autre avec une échelle en haut pour Ringo. Mais il ne leur viendrait pas à l'idée de refuser. Mais comprenez-moi bien, quand je dis ça, à l'époque, c'est pas les Beatles avec un grand B, c'est simplement des mômes qui font une musique sympa. Ils ont 17, 19 et moi j'ai 22. Voilà, c'est des histoires de gamins tout ça, c'est ça qui était beau.
Alors le temps est une sorte de roue qui tourne, inexorable. Le monde des variétés a beaucoup changé depuis que vous avez déboulé à l'intérieur de cet univers-là, qui est un univers de mode de vie, d'échange, de joie, de fête. Et nous qui étions plus jeunes, qui nous a beaucoup fait changer aussi dans nos mœurs, dans notre manière de regarder le monde. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, avec le recul du temps, Jean-Marie Perrier, que ce monde des variétés, qui est d'ailleurs toujours aussi riche, aussi divers, en talent, même quelquefois en génie, peut nous influencer autant qu'il a influencé cette génération des années 60-70?
Oui, mais pour moins longtemps. C'est-à-dire
ça va trop vite.
Ça va trop vite, si vous voulez. D'abord, il y avait quand même que, quand j'ai commencé, il y avait quand même qu'une chaîne de télé et deux chaînes de radio. Donc, si vous voulez, et que ce journal était le seul qui parlait de ça, de cette musique-là. Aujourd'hui, il y a pléthore de médias dans tous les sens. Et puis, vous savez, aujourd'hui, tout le monde a peur de tout. Ils ont peur de leur propre, l'image, très important, l'image. Bon, eux, ils n'avaient pas peur de leur image. Ils savaient même pas qu'ils avaient une image. Donc, c'était extrêmement simple. Donc, il n'y avait pas de peur et on prenait pas ça trop au sérieux. C'était pas sérieux. Ce qui comptait, c'était aussi d'aller déjeuner ensemble. C'était ça qui comptait.
Pas seulement déjeuner, passer les nuits ensemble.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y avait une décontraction dont vous disiez tout à l'heure que je ne suis pas nostalgique. Si, bien sûr. Parce que j'ai fait les gens de mon âge toujours disant non, moi je ne regarde pas en arrière. Moi, uniquement demain. Ah bon, ben moi, et puis vous dire un truc. La nostalgie, je l'ai parce que c'était la plus belle période de ma vie. Parce que je préfère me marrer beaucoup plus à 25 ans qu'à 79.
Et que. Mais il ne tient qu'à vous.
Non, attendez. D'abord, aujourd'hui, je vous dis, remarre-moi.
Rachetez une Ferrari et faites un voyage en pleine nuit comme vous faisiez quand vous étiez jeune homme.
Pour rouler à 80, pour rouler à 90 alors qu'on Paris-Nice en 6h30, non, vous plaisantez. Non, puis bon, l'avenir, bon, bah, si vous voulez, il me semble un peu court, quoi. Donc oui, je l'ai, la nostalgie, et j'en ai pas honte, mais j'ai pas de regrets. Ça, c'est très important. Aucun regret.
Dernière question. J'ai cru comprendre que vous étiez grand-père.
Ah bon? Non.
Non?
Mais j'ai pas de petits-enfants.
Vous êtes tout seul dans la vie?
Non, j'ai mes trois enfants, bien sûr. Mais
enfin, qui n'ont pas encore d'enfants.
Voilà, non, vous me faites peur d'un seul coup. Est-ce que j'aurai un petit-fils et que je l'aurai oublié? Ce qui est possible, parce que je suis un peu distrait. Mais franchement, non. Ah oui, mes enfants, bien sûr.
Ah ben, vous mes les avez enfants. Pris en photo.
Oui, je les ai pris en photo, mais c'est pas ça, c'est surtout formidable de voir qu'ils sont l'avenir. Et je leur dis surtout, n'écoutez pas mes conseils, ne m'écoutez pas, parce que ça sert à rien les conseils. Il faut faire que ce qu'on a envie de faire. Écoutez personne, d'ailleurs, c'est bien simple. Écoutez personne, surtout pas les vieux.
Ben écoutez, il vous reste une grande joie qui va bientôt sans doute arriver. C'est l'art d'être grand-père.
Ah oui, ça, alors là, j'attends avec impatience, parce que j'adore les bébés, moi. Ah, le nourrisson, je suis un voleur de bébés. Mais le biberon du 4 heures du matin, mais vous pouvez pas savoir, c'est la plus chose la plus belle du monde. On est là avec cette petite chose, avec des yeux merveilleux dans lesquels on peut mettre tout ce qu'on veut, parce qu'il y a rien dans les yeux d'un bébé, hein, en fait, pour l'instant. Hein, quand c'est nourrisson, ça vous regarde comme ça, c'est magique. Le biberon, le silence, tout le monde dort, personne vous fout, tout le monde vous fout la paix, mais c'est un enchantement, vous êtes le roi du monde. Bon, ça se gratte vers un an et demi. Mais, tant que c'est un bébé, c'est absolument somptueux.
Merci Jean-Marie Perrier. Je rappelle qu'on pourra voir une partie de votre travail photographique dans ce lieu magnifique pendant tout l'été. Ça commence début juillet, c'est oui. Au château d'Ardelot. Merci infiniment.
Merci à vous.
Des neiges de Kiev au ciel lavé, des baisers brûlés assez loin. Ce goût de ce mois d'août est si loin.
C'est avec Kiev de Vanessa Paradis que nous allons nous quitter ce soir. Non sans avoir remercié Grégory Vallon à la technique ce soir, Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, Pierre Dindy, Anne-Sophie Dazard et Elodie Royer et bien sûr Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka qui, comme chaque soir, saura vous enchanter et vous faire danser.